on n'est pas fâché, on a des débats. C'est ça la vitalité démocratique.
Force et la réconciliation avec M. Vallaud.
On était fâché.
On n'est pas totalement fâché. Hein,
on doit parler des Françaises et des Français et des conditions de vie. Il faut arrêter de faire votre congrès numéro 2 dans les médias.
Peut-être que je ne suis pas le plus intelligent de la salle. C'est bien possible. Mais en tout cas, je ne connais pas pour l'instant d'autres moyens de se départager.
Si on passe notre temps à discuter de la gauche, ben ça ne va pas marcher. En fait, il faut qu'on parle de la France.
Et il y aura la candidature Mélenchon. Continuer à avoir une ambiguïté sur Mélenchon ou pas Mélenchon dans la primaire, c'est nous condamner.
Olivier Faure s'est durablement installé dans le rôle de l'empêcheur de tourner en rond. Traître pour les insoumis, le premier secrétaire du PS l'est également devenu pour la moitié de son parti, qui le soupçonne d'être toujours sous l'influence de Jean-Luc Mélenchon. Derrière ces accusations, il y a surtout un combat des chefs avant l'heure pour la présidentielle. C'est ce que je vous raconte dans ce numéro 188 de Pôle Express. Olivier Faure est devenu ces dernières semaines le punching ball préféré d'une grande partie de la gauche. La France insoumise lui reproche l'abstention des socialistes au moment de la motion de censure sur le budget, ce qui a permis l'adoption de ce dernier en février de cette année. Jusque-là, rien de surprenant. Mais depuis les élections municipales, voilà que dans son propre parti, Olivier Faure est en butte à une contestation grandissante. On lui reproche de ne pas avoir complètement rompu avec la France insoumise. En refusant toute alliance au niveau national, mais en permettant des alliances locales, il aurait tenu un double langage qui témoignerait, affirment ses détracteurs, d'une allégeance chronique au mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Déjà traître à la gauche pour LFI, voici Olivier Faure devenu traître au PS pour la moitié de ses camarades. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Depuis le 22 mars, le Parti Socialiste a réuni par trois fois son bureau national, signe que la crise est grave. À chaque réunion, il y a eu du sang sur les murs. Le plus offensif contre le premier secrétaire s'est révélé être celui-là même qui lui avait permis d'être reconduit lors du dernier congrès. Boris Vallaud, le patron des 69 députés du groupe socialiste. Sur le papier aujourd'hui, Olivier Faure est minoritaire dans son propre parti. Les opposants de toujours, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, et Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, font bien sûr front commun avec Boris Vallaud. Mais au PS, la comédie n'est jamais très loin de la tragédie. On joue à « retenez-moi ou je fais un malheur ». Preuve en est que personne ne réclame la convocation d'un congrès extraordinaire pour destituer l'actuel premier secrétaire. Au municipal, le parti a réussi à conserver son ancrage territorial. Ouvrir une crise devant l'opinion au lendemain de cette séquence, ce serait flinguer les maigres chances de voir un candidat de la gauche non mélenchoniste accéder au second tour de la présidentielle. Alors on se fait de grands sourires tout en se plantant des poignards dans le dos. C'est ce que j'ai pu vérifier ce samedi à Montreuil. Toute la gauche, ou presque, s'est retrouvée dans une des salles de la mairie pour confronter ses propositions. Seulement qu'à l'appel Clémentine Autain, Marine Tondelier et François Ruffin. Les deux premières ne voulaient pas débattre avec des adversaires déclarés de la primaire dite de Bagneux. Le dernier n'a pas répondu à l'invitation. L'intitulé de ce modeste conclave était ambitieux. La social-écologie pour rassembler la gauche. Réunis par le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, les principales figures de la gauche non mélenchoniste avaient accepté de laisser de côté la cuisine électorale. Il y avait là Raphaël Glucksmann, le président de Place Publique, candidat à la présidentielle. Yannick Jadot, sénateur écologiste et ancien candidat à la présidentielle de 2022. Léa Ballage, El Mariki, qui a remplacé au pied levé Marine Tondelier. Et Boris Vallaud, le patron des députés socialistes, en froid avec Olivier Faure.
Alors Monsieur Vallaud, c'est la journée de réconciliation avec Monsieur Faure.
C'est journée sûre, mais on n'est pas fâché, on a des débats. C'est ça la vitalité démocratique. Vous savez, la vraie crise, c'est quand il ne se passe rien. Peut-être qu'on en sort.
Il faut donc en conclure que la vitalité démocratique est à son apogée. Depuis les municipales, le Parti Socialiste est divisé entre ceux qui veulent désigner un candidat issu de leur rang, Boris Vallaud se verrait bien dans ce rôle, et le premier secrétaire, Olivier Faure, qui ne désespère pas de briller l'Élysée à la faveur d'une primaire de la gauche dont il sortirait vainqueur. Primaire à laquelle la France Insoumise et Place Publique ne participeront pas, on le sait déjà.
Vous dites pas bonjour,
si, on s'est fait même la bise, fait la bise. Oui. On n'est pas totalement fort quand même. Hein.
Monsieur Faure, c'est la réconciliation avec Monsieur Vallaud.
On était fâchés.
Ah, apparemment, oui.
Non, moi, je ne suis jamais fâché, quiconque à gauche.
Ça va. Bon, ils ne sont pas fâchés. Et d'ailleurs, pour prévenir les écarts de langage, Bruno Rebelle, un des initiateurs de la réunion, leur a rappelé les règles.
La règle aujourd'hui est donc que nous ne parlerons pas de primaire, de processus, de conclave ou de tout autre arrangement visant à désigner le candidat ou la candidate providentielle en 2027.
De fait, pendant une heure, le débat a porté sur l'analyse des municipales et la France des pavillons. Mais cet échange à fleur et moucheté s'est tendu lorsque Léa Balage-Almariki a mis les pieds dans le plat.
Je suis interpellée par la conclusion de Boris, parce que si on doit parler des Françaises et des Français et des conditions de vie, il faut arrêter de faire votre congrès numéro 2 dans les médias, les gars. Enfin, à un moment donné, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est-à-dire que si on veut être sérieux et offrir un espace politique où on discute de ce projet de manière collective et qu'en plus on parle avec les gens, moi je sais qu'on n'a pas parlé des modalités de désignation, mais je vais parler des modalités de travail d'un programme. Ben, en fait, il faut un espace commun. Je sais pas, est-ce qu'on l'appelle en deux mots la primaire, peut-être, mais en tout cas, il faut cet espace commun pour pouvoir le faire.
Dit qu'on ne prononcerait pas le mot, mais...
Mais c'est l'éléphant dans la pièce, et sans parler des socialistes.
On est à 14 mois de la prochaine élection présidentielle, et il y a plus qu'un éléphant dans la pièce, il y a en réalité l'extrême droite qui est désormais non plus seulement porte du pouvoir, mais qui a déjà mis un pied assez largement dedans. Et on pourra dire ce que l'on voudra. On pourra faire dans le colloque que l'on voudra, on pourra se réunir aussi souvent qu'il le faudra. Si à un moment, nous n'arrivons pas à faire en sorte qu'il n'y ait pas 5, 6, 7, 8 candidats de gauche au premier tour, eh bien, nous perdrons. Et l'extrême droite l'emportera. Et donc, cette responsabilité-là, nous l'avons en commun. Et nous devons évidemment la gérer et ne pas être en permanence à éviter la question. Moi, je le dis. Il y a un mot qu'on ne peut pas prononcer, alors je ne le prononce pas, mais tout le monde l'a compris. Je me suis déjà prononcé en faveur de ce mot interdit. Bon. Peut-être que je ne suis pas le plus intelligent de la salle, c'est bien possible. Mais en tout cas, je ne connais pas pour l'instant d'autres moyens de se départager.
La gauche ne doit pas parler seulement la gauche. C'est aussi le sentiment de Raphaël Glucksmann. Il est vrai qu'il n'est pas certain d'avoir l'onction de la gauche, fût-elle non mélenchoniste pour cette présidentielle. Autant parler au pays directement.
Si on passe notre temps à discuter de la gauche, ben ça ne va pas marcher. En fait, il faut qu'on parle de la France. Et effectivement, qu'on reprenne le drapeau de la France, des mains qui, en ce moment, l'habillissent, le squat, et qui vont essayer de gagner l'élection en kidnappant le récit national qui est l'extrême droite.
Le souci, c'est que certains en arrivent à chercher un vote utile contre l'extrême droite au-delà des frontières de la gauche. Écoutez bien ce que dit Yannick Jadot. Les autres invités croient un lapsus, mais non.
La candidate ou le candidat qui sera qualifié au second tour face à l'extrême droite aura l'immense responsabilité que ce pays ne tombe pas à l'extrême droite. Et pour ma part, j'ai pas envie de voter Édouard Philippe au premier tour de la présidentielle parce que ce serait le seul qui nous empêcherait d'avoir l'extrême droite. Au premier tour, parce que ce serait le seul capable de battre l'extrême droite. Et donc, pour ma part, j'entends, mais un processus de désignation, ça n'est pas un projet politique. Un processus ne règle pas les problèmes politiques. Pour ma part, si, et nous partageons, je crois tous ici, il n'y a pas d'ambiguïté. L'idée qu'il y ait une candidature commune, mais de la gauche non mélenchoniste. Il y aura la candidature Mélenchon. Continuer à avoir une ambiguïté sur Mélenchon ou pas Mélenchon dans la primaire, c'est nous condamner.
Jean-Luc Mélenchon est déjà sur la ligne de départ de la présidentielle. À droite, les grandes manœuvres ont commencé. La gauche non mélenchoniste, elle, fait du surplace. Un meeting en faveur de la primaire unitaire est prévu pour le 5 mai. Et le vote est toujours fixé au 11 octobre. D'ici là, certains auront pris leur envol. Certes, Jean-Luc Mélenchon aimait à se comparer à une tortue en 2022. Mais cela ne fait pas forcément de ses concurrents des lièvres capables de le rattraper. Rien ne sert de courir, il faut savoir partir à point. Alors qu'on ne s'y attendait plus, la gauche mélenchoniste, et pas mélenchoniste, pourrait bien se retrouver pour faire tomber le gouvernement. En cause, une proposition de loi qui autorise les salariés des commerces de bouche et de proximité à travailler le 1er mai. Autrement dit, la journée internationale des travailleurs cesserait de facto d'être un jour chômé et rémunérée. Vendredi, dans le cadre de la niche du groupe Ensemble pour la République, les députés étaient appelés à se prononcer sur ce texte déjà voté en première lecture au Sénat. Pressentant que le débat allait s'éterniser, les députés du Bloc central, avec le renfort de la droite et du Rassemblement national, ont rejeté la proposition de loi, ce qui a pour effet de la renvoyer devant une commission mixte paritaire, 7 sénateurs et 7 députés. Dans cette instance, la gauche parlementaire est minoritaire. Gabriel Attal pousse à la roue pour que la CMP se tienne dans les jours prochains, ce qui permettrait de promulguer la loi avant le 1er mai. Devant les protestations des organisations syndicales, Sébastien Lecornu a demandé à Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, de les recevoir ce lundi soir. Dans le même temps, le groupe communiste menace de déposer une motion de censure si le gouvernement ne stoppe pas l'examen de ce texte en commission paritaire. Motion à laquelle se joindront le groupe écologiste et les insoumis. Du côté des socialistes, Olivier Faure a laissé entendre dimanche que son groupe pourrait également signer cette motion de censure. On sera certainement fixé sur la suite des événements demain mardi lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez un pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, jetez-vous à l'eau. En cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour nous soutenir, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons constituent l'essentiel de nos ressources. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. C'est grâce à vous que Pure Politique existe. On se retrouve jeudi pour le Bourbon de Serge.